Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour à tous et à tous et bienvenue aux Attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAQ 88.3. Je m'appelle Nicolas Dionne et je suis en compagnie de Marc-Olivier Jacob et d'un invité particulier aujourd'hui, Jacob Auger, pardonnez-moi, blanc de mémoire. Bonjour les gars, comment vous allez?
Ça va super bien toi?
Oui, très bien. Émission chargée aujourd'hui encore une fois. On va commencer par les dossiers municipaux importants concernant l'aéroport de Sherbrooke. Notamment avec, dans les dernières semaines où est-ce qu'il y a eu... ça fait des manchettes, on ne vous le cachera pas. Ensuite, on va aller avec le congrès général du Parti libéral du Québec qui a eu lieu à Montréal en fin de semaine dernière, où est-ce que ces derniers ont présenté leur prochaine plateforme électorale pour les prochaines élections de cet automne. Également, on va avoir une entrevue, Jacob, particulièrement sur les jeunes... C'est un jeune impliqué à Sherbrooke dont on va parler de la participation citoyenne, mais également... Je vais vouloir interroger Jacob sur le scepticisme, si je peux me permettre, ouais, scepticisme, mm-hmm. Des jeunes par rapport à la politique qu'on peut voir dans les, tout récemment, mais etc. sur ces sujets qui nous touchent tous, notamment étant donné qu'on est des jeunes, faut pas se le cacher.
Ouais.
On va aller avec quel sujet ensuite, Marco?
On va parler avec, dans le fond, Eden Bélanger, qui va revenir à l'émission aujourd'hui, encore une fois, faire une chronique cette fois-ci sur les élections législatives qui ont lieu en France. Le premier tour des législatives. Donc, on va discuter avec lui, bien évidemment, des résultats du premier tour, évidemment, mais aussi du fonctionnement aussi des élections législatives, le mode de scrutin et tout. Fait qu'on va être dans les faits, dans l'actualité, mais aussi être au niveau des concepts vraiment plus théoriques de la politique. Ensuite, évidemment, on va conclure avec le bulletin de la semaine, avec la réussite et l'échec en politique. Mais tout d'abord, je crois, Nicolas, que tu voulais souligner un anniversaire important qui avait lieu en fin de semaine au Québec.
Oui, effectivement, c'était hier. On célébrait le 100e anniversaire de René Lévesque, notre ancien premier ministre. Sa feuille de route n'est pas... Je pourrais m'éterniser pendant toute l'émission, mais on va s'en tenir à seulement le souligner. Bon anniversaire, René. Tout simplement. C'est ça, on enregistre pour toi aujourd'hui, qu'on soit souverainiste ou non. Honnêtement, son travail politique a marqué le Québec, qu'on soit en accord avec ses idées ou non. Donc, on trouvait ça important de le souligner aujourd'hui.
Effectivement.
Donc, chers auditeurs, auditrices, on commence sur le dossier municipal par rapport à l'aéroport de Sherbrooke. Marco, je sais que ça a été un sujet qui a été endiablé, la scène médiatique à l'heure actuelle, dans les derniers jours. Qu'est-ce qui se passe avec ce projet-là? Qu'est-ce qui se passe?
C'est un gros dossier, puis pour bien le comprendre puis bien le saisir, il faut parler en premier lieu de la démission du DG qui, de fil en aiguille, a abouti au rapport de la vérificatrice générale de la ville de Sherbrooke sur la corporation qui gère, dans le fond, l'aéroport.
Qu'est-ce qu'une vérificatrice générale, si je peux me permettre la question?
Vérificatrice générale, dans le fond, c'est là pour, dans le fond, faire des rapports sur la gouvernance de la ville ou des organismes qui entourent la ville ou la province. Là, on a ça autant au stade fédéral, provincial que municipal. Au municipal, c'est juste des villes en haut de 100 000 habitants qu'on compte des vérificatrices générales. C'est obligatoire. C'est dans la loi sur les cités puis les villes. Évidemment, étant donné que Sherbrooke, c'est une des plus grandes villes au Québec, en haut de 100 000 habitants, sont obligés d'avoir une vérificatrice générale ou un vérificateur général. C'est ça. Puis dans le fond, son but, c'est de challenger un peu le pouvoir politique, puis en faisant des rapports.
Des recommandations également pour le conseil municipal par rapport à un certain niveau de gouvernance, notamment l'aéroport de Sherbrooke qui est géré, en fait, par... C'est un... Tu peux me permettre l'expression, un organe du conseil de ville, si je peux me permettre.
Oui, ça ressemble à ça. Bon, pour commencer, donc le 27 mai, évidemment, il y a le directeur général de l'aéroport de Sherbrooke qui annonce son départ, qui a démissionné. Jean-François Ouellette. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est la deuxième démission sur le conseil d'administration de la corporation de l'aéroport de Sherbrooke. La première étant celle de Sean Young, qui était membre du CA depuis longtemps. Cependant, les deux n'ont pas voulu commenter publiquement leur départ du conseil d'administration de l'aéroport. Cependant, Radio-Canada a obtenu une lettre signée de Sean Young dans laquelle il explique qu'il ne sent pas de véritable volonté politique de la part des élus dans le projet du transport aérien, parce que c'est de ça qu'il est question surtout. C'est le transport aérien entre Sherbrooke et Montréal, le transport commercial ou même celui pour, dans le fond, les citoyens. Selon eux, il n'y a pas de volonté politique de la part de la ville, ni des élus qui sont membres du conseil, ni même, évidemment, de la députée de Sherbrooke, Christine Labrie. Il n'y a pas de volonté pour eux que le dossier avance. En réaction, justement, Christine Labrie, elle a réagi sur ce dossier-là. Pour elle, évidemment, comme je viens de le dire, le transport aérien, c'est pas la façon de relier Sherbrooke et Montréal. Pour elle, la voie de l'avenir ne passe pas par l'aérien, mais plus par le transport ferroviaire ou le transport collectif pour relier Sherbrooke et Montréal. Donc, il y a tout ça qui se passe en premier. Ensuite, évidemment, il y a la nomination après ça d'Évelyne Baudin sur le conseil d'administration pour remplacer, dans le fond, par intérim, Raïs Kibonge. Sur le conseil d'administration. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Évidemment, du côté de la ville, on veut agir, on veut réagir, on veut régler le dossier du transport entre Sherbrooke et Montréal. C'est une volonté politique qui est annoncée de la part de la ville. Donc, ça ressemble à ça du côté pour la ville. Ensuite, au mois de juin, début juin, lorsqu'on a présenté Caroline Saint-Hilaire,
la CAQ a proposé, avait de bonnes, si je pouvais dire, une certaine vision de l'aéroport, de l'utilisation de cette dernière pour par rapport à qu'est-ce qu'on fait avec cet aéroport-là. Est-ce qu'on fait comment on développe ce marché aérien-là, étant donné le besoin de Sherbrooke d'avoir un trajet rapide jusqu'à Montréal, notamment. Là. Ça a été mentionné.
Oui, non, ça a été mentionné, puis je crois que ça va être un enjeu électoral, dans le fond, dans la région ici, autant pour le comté de Sherbrooke que pour le comté de Saint-François. Ça va être un enjeu électoral. La CAQ a justement mentionné, pendant l'investiture, dans le fond, de Caroline Saint-Hilaire ici, François Legault a dit on va s'attarder sur le projet. On veut un lien entre Montréal et Sherbrooke, que ce soit aérien ou non. La même chose a été mentionnée par le ministre des Transports, François Bonnardel, qui est aussi député de Granby, qui est une circonscription de l'Estrie. Mm-hmm. Aussi mentionné qu'avec l'arrivée de la zone d'innovation ici à Sherbrooke, il est convaincu qu'on se doit se doter d'un réseau ferroviaire ou aérien. Mais du côté du ministre, on veut s'asseoir avec la mairesse pour en discuter, pour avoir le pouls de la ville, pour savoir vers où on s'en va. Mais l'aboutissement de tout ça, c'est le rapport de la vérificatrice générale, Mme André Mallette. Dans son rapport de 26 recommandations, entre autres, on parle de règles de gouvernance qui sont imprécises, on parle des procès-verbaux qui sont incomplets pour les citoyens qui veulent aller les consulter, c'est quand même important. Aussi, l'absence de politique d'achat, on parle de l'absence de planification stratégique, une gestion douteuse des dépenses, un manque d'expertise au niveau du conseil d'administration. Vraiment, là, la vérificatrice générale dénote vraiment un grave problème de gestion sur lequel, évidemment, Évelyne Baudin va devoir se pencher dans les prochains mois, évidemment, pour régler ce problème-là à Sherbrooke, au niveau de l'aéroport, mais aussi au niveau du lien entre Sherbrooke et Montréal.
On parle aussi... on recommande aussi des changements par rapport aux règlements généraux, non seulement sur les rôles des employés de l'aéroport de Sherbrooke, étant donné qu'à l'heure actuelle, la vérificatrice générale a mentionné qu'il y a un certain problème de est-ce que nos employés ont les compétences et les capacités de bien faire leur travail, étant donné qu'ils ont beaucoup de rôles et beaucoup de responsabilités selon les règlements généraux actuels. Donc, la vérificatrice générale demande des règlements généraux plus clairs, plus concis et plus à jour. Je peux me permettre.
Oui, exactement. Puis évidemment, ça relance aussi le débat sur le conseil d'administration. Est-ce que celui-ci doit être composé d'élus? Est-ce qu'il doit être composé exclusivement d'hommes d'affaires ou d'experts du sujet? Ça relance le débat aussi au niveau de l'implication de la ville, au niveau du conseil d'administration. Bon, plusieurs sont en désaccord, plusieurs veulent que la ville garde un siège sur le conseil d'administration. Vraiment, là, ça relance vraiment le débat sur la gestion des corporations qui sont pas directement en lien avec la ville de Sherbrooke. Oui, donc ça ressemble à ça au niveau, au niveau de la ville de Sherbrooke. Puis ça, puis c'est quand même important de mentionner qu'au niveau du budget de l'aéroport, c'est quand même plus d'un million de dollars par année, mais que la ville de Sherbrooke contribue à hauteur de 55 à 58 %. Donc c'est quand même beaucoup d'argent de la ville de Sherbrooke qui est investi dans l'aéroport à chaque année.
Des sujets, ben, un sujet qui fait beaucoup couler d'encre à l'heure actuelle et qui va en continuer à le faire dans les prochaines semaines. Bien hâte de voir le dénouement de ce projet, ben, de cette situation, en espérant que l'aéroport de Sherbrooke ait une planification stratégique à la hauteur de la ville de Sherbrooke et de la réalité du terrain. Là.
Exactement. Donc, je crois que ça fait le tour du sujet. On conclut bien ça. Donc, on irait avec le deuxième sujet du jour, le caucus du Parti libéral du Québec.
Oui, effectivement, qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Le congrès général du Parti libéral avait lieu à Montréal. Et contre toute attente, le PLQ a déjà présenté sa plateforme électorale pour les prochaines élections. D'abord, il faut mentionner que c'est relativement très tôt à l'heure actuelle, étant donné que l'élection a lieu en octobre prochain. On présente déjà une plateforme. Dans un livre, je peux me permettre l'expression, de 102 pages, le PLQ divise en 6 chapitres sa plateforme annuelle. On peut voir notamment le chapitre 1 sur le projet éco, où est-ce que le Parti libéral s'engage à associer l'économie et l'écologie. Dominique Anglade vante ce chapitre et vante cette vision du Parti libéral sur la scène québécoise notamment. Au-delà de tout ça, le PLQ promet de diminuer de 1,5 point de pourcentage de taux d'imposition pour les contribuables dont la tranche de revenus annuels se situe sous 92 580 $. Il faut remonter il y a 3 mois où est-ce que le parti avait mentionné qu'il n'allait pas amener de baisse d'impôts pour la prochaine campagne. Mais ils l'ont annoncé aujourd'hui étant donné le contexte actuel de la pandémie et le taux d'inflation qui ne cesse d'augmenter. Donc, c'est les raisons amenées par Carlos Letao.
Oui, aussi, on pourrait aussi rajouter, évidemment, la crise du logement, le coût de la vie qui cesse d'augmenter. Aussi, justement, on est allé en contrepartie aussi avec une autre proposition, celle aussi de créer un nouveau palier d'imposition pour les personnes qui gagnent plus de 300 000 $ par année. Et ces contribuables-là, ben, ils seraient donc imposés à hauteur au niveau provincial, évidemment, à 27,75%, ce qui serait une augmentation par rapport à l'état actuel des choses. Aussi, ben, évidemment, ben, pour justifier justement ce nouveau palier d'imposition promis par un futur gouvernement Anglade, évidemment, ben, M. Letao est allié justement avec les mêmes arguments énoncés pour la baisse des impôts, justement.
Également, le PLQ a annoncé qu'il modifierait la loi 21 sur la laïcité de l'État et l'interdiction des signes religieux, notamment pour en exclure les enseignants. Il renonçait à la cause dérogatoire jusqu'à qu'elle contient, ce qui ouvre la porte à des contestations judiciaires. Notamment, on en a parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines avec M. Guillaume Rousseau par rapport à la clause dérogatoire, la loi 21 devant les tribunaux. Ce qui est en soi peut amener de certaines questions par rapport à la loi 21, mais on s'entend aussi que probablement cette décision vient avec le manque d'enseignants à l'heure actuelle. On peut aller dans l'extrapolation. Mais sinon, le PLQ prévoit des investissements de 100 millions de $ pour remodeler l'économie du Québec afin d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Des promesses notables, des promesses fortes dans le domaine. Et Madame Anglade a vraiment mentionné que le PLQ était le parti qui allie économie et écologie pour la prochaine campagne électorale.
Justement, pour faire un peu de pouce sur ce que tu as dit, pour conclure rapidement ça, le véritable enjeu, évidemment, de la campagne électorale pour le Parti libéral va être de filer sa survie aussi. La moitié du caucus du Parti libéral en ce moment ne va pas se représenter pour la prochaine législature. Les nouveaux candidats vont être à faire élire, mais aussi une grande compétition au niveau de la CAQ dans certains comtés, surtout en Outaouais, où la CAQ pourrait faire d'autres percées. Donc, vraiment, le défi du Parti libéral pour la prochaine élection, ça va être de conserver les sièges qui vont être remis en jeu à la prochaine législature.
Très intéressant pour le Parti libéral du Québec et pour l'élection qui s'en vient. On s'en va en pause publicitaire, on s'en va en musique. Ensuite, Valence va nous jouer Pruno, l'un de ses classiques. C'est les attachés de presse sur CFAQ 83. Ça part ici. Re-bienvenue aux attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAQ 88.3. Je m'appelle Nicolas Dionne et j'accueille Jacob Auger, notre invité d'aujourd'hui pour l'entrevue. Comment tu vas, Jacob?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Bien hâte de parler avec toi de les jeunes en politique, participation citoyenne. Bref, Arco, je te laisse en heure.
Oui, pour toute l'entrevue, j'aimerais ça savoir dans quel organisme t'es impliqué à Sherbrooke, pourquoi t'as décidé de t'impliquer dans ta ville?
Pourquoi je veux m'impliquer dans ma ville? Ben, premièrement parce que Sherbrooke, c'est tellement une belle ville au niveau...
C'est dit, j'aime ça.
Non, mais c'est une ville étudiante, pleine de vie, qui a du roulement et tout. Donc, je pense qu'il faut qu'on puisse s'impliquer davantage, en fait, en tant que citoyen. Puis, au niveau d'organismes, je t'avouerais bien franchement que je m'implique au niveau plus les organismes sportifs, environnementaux, communautaires aussi. On parle juste le Carrefour Solidarité Internationale, qui, eux autres, font le CMJ, le Conseil municipal jeunesse, à tous les années, qui est en lien avec la ville de Sherbrooke. Donc, ça l'incite les jeunes à se lancer en politique municipale et tout. Donc, je te dirais que j'ai comme plein de branches qui vont un peu partout, là, dans toutes les sphères de la vie de l'action citoyenne. Mais pour ce qui est de où est-ce que ça vient, je pense que ça vient de depuis toujours. Là, j'ai été dans le conseil d'école quand j'étais au secondaire, au primaire aussi. Puis, ouais.
Donc, de ce que je comprends, ton implication vraiment commencé au niveau de l'école secondaire. Mm-hmm. Pour ça, ben, tu as poursuivi ça, dans le fond, dans le reste de ta vie jusqu'à aujourd'hui. Dans le reste de ton parcours aussi.
Oui, c'est ça, exactement. Là, en fait, quand j'étais, même au primaire, comme je dis, j'étais à l'école Actif, qui est une école qui a un conseil pour les jeunes. Et j'ai réalisé, wow, OK, attends, j'ai de l'impact sur comment la cour d'école va être faite pour l'année prochaine. T'sais. Donc, on peut faire quelque chose. Quand j'étais arrivé au secondaire, les projets que je présentais, j'en parlais avec la direction et tout, puis là, ça change. T'sais, j'étais capable de modeler l'école à l'image que les jeunes voulaient vraiment. Puis c'est ça, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, t'sais, que quand on dit faut rentrer dans la machine pour réussir à faire changer les choses, hein. Ben, c'est un peu ça qu'on pourrait dire au niveau de je suis rentré dans la machine, de vouloir faire changer les choses à ma façon, puis j'essaie de représenter la population et pour nous étant les jeunes le mieux que je peux.
Oui, mais je crois dans le fond ce qui a accentué ton implication à Sherbrooke, c'est ta participation en tant qu'élève du secondaire dans le conseil municipal jeunesse.
Oui. Oui.
Ça t'a permis de connaître, je crois, les rouages de la politique municipale, puis de peut-être de te rendre compte que qu'un citoyen peut avoir un impact direct sur sa ville, soit en allant poser une question ou en s'impliquant avec les élus.
Oui, ben j'aime ça au niveau de quand tu dis un simple citoyen, là. Des fois, on va idoliser un peu les personnes qui sont en politique, là, au niveau municipal, provincial, fédéral, name it. Là.
On se dit qu'ils sont pas faciles d'accès, qu'ils sont pas là, puis
ouais,
ce genre de faux préjugés, là, peut-être.
Exactement. Faux préjugés, très bien dit, parce que quand je me suis impliqué dans la campagne municipale qu'il y a eu l'année passée énormément, j'ai réalisé au contraire, c'est des simples citoyens, comme on disait, comme nous, qui font juste s'impliquer davantage dans la société, c'est leur emploi. T'sais. Donc, je pense que oui, c'est ça. Le CMJ m'a vraiment aidé à m'embarquer dedans l'aspect plus municipal, mais au niveau politique, en général, j'ai toujours voulu. Là.
Est-ce que, à travers tes différentes expériences, puis avec la réalité actuelle de la politique, on le sait, on entend souvent parler de cette phrase-là, les jeunes sont sceptiques de la politique, ils s'impliquent pas ou quoi que ce soit. Comment tu peux répondre à ces critiques-là de le groupe jeune, qu'on peut si je peux me permettre l'expression? Là.
Mm-hmm. Disons qu'on fait un exemple avec le passé, en fait, là, avec l'histoire en général. Les jeunes, entre 20 et 30 ans, on est toujours plus de gauche. On est d'accord? Donc, le scepticisme va venir avec le fait qu'on n'est pas en accord nécessairement avec ce qui est mis par les plans politiques. On parle de la CAQ en ce moment. Là. C'est de droite un peu plus. Puis les jeunes en tant que tels, on n'est pas nécessairement de même avis qu'eux. Donc le 7-6 va rentrer au niveau de quand on veut réussir à faire changer les choses, puis qu'on voit que ça ne fonctionne pas, on se dit, ben, est-ce que mon droit de vote, est-ce que mon vote a vraiment de l'impact? Et comme vous m'avez présenté tantôt, il y a un politicologue qui était venu la semaine passée, si je ne me trompe pas, c'est ça?
Monsieur Orgelier, oui, qui était venu en nombre nous parler justement de l'école qui enseigne le politique.
C'est ça.
Qui est un peu biaisé ou bien qui n'est pas enseigné d'une bonne façon.
Parce qu'il présente surtout le droit de vote. Il ne présente pas l'action citoyenne. Puis je pense qu'on doit mettre davantage de pression sur... Ben, pas de pression, là, mais d'emphase.
De pression.
Oui, ouais, c'est ça. Sur le fait que, tu sais, c'est pas juste d'aller voter une fois ou quatre ans qui va faire changer les choses. Là. Il faut que tu réussisses à aller parler avec tes personnes qui ont été élues pour réussir à dire « Moi, je pense de même. » Puis juste parce que tu as présenté ça, ça veut pas nécessairement dire que c'est la bonne chose, tu sais.
Ce serait soit de faire ça, soit aller voir les élus, ou sinon, ben, de par soi-même, de créer une initiative citoyenne, ce que tu as fait, justement, avec te manifester contre le projet Baie du Nord. Mm-hmm. Est-ce que tu veux nous parler de l'émergence de cette idée-là? Je sais que c'est un peu un coup de tête quand la nouvelle est tombée, que tu as parti l'initiative à laquelle s'est joint, je pense, c'est la SEV, ici à l'Université de Sherbrooke. Puis aussi d'autres personnes sont venues t'appuyer. Tu as pu aussi parler après ça avec Mme Brière, qui est députée fédérale à Sherbrooke pour le Parti libéral.
Oui. Ben, en fait, comme tu dis, coup de tête, c'est drôle parce que le soir où est-ce que ça a été présenté, je m'en allais pour aller former un peu les jeunes du CMJ, le Conseil municipal jeunesse, et avec toi, en fait. En fait, quand le lendemain, je me suis réveillé, je me suis dit, ça n'a pas d'allure. Là. Ça n'a pas d'allure que nous, le Canada, on décide de faire encore des projets pétroliers, surtout après que le rapport qui était sorti, là, si je ne me trompe pas, le rapport du GIEC, là, qui était sorti la même semaine. Donc, je me suis dit, bon, comment est-ce que je fais pour manifester mon désaccord avec ce projet-là? Je vais aller me mettre devant le bureau de Mme Brière et je vais manifester à ma façon civile. Et oui, comme tu dis, au niveau la sève qui est venue. Il y a beaucoup de personnes dans la ville en général, les médias qui ont quand même mis beaucoup de pression au niveau de Mme Brière pour avoir une réponse de sa part.
Ouais, les médias ont couvert l'événement. Là.
Ils ont vraiment
couvert. J'étais présent, les médias ont couvert l'événement, oui.
Oui, c'est ça, exactement. Là. Puis c'était super encourageant parce que ça montre que les médias, ils sont aussi sont pas nécessairement au bord de la bureaucratie, sont du bord aussi de la population en général, faire montrer qu'il y a des projets qui sont des fois pas rapport puis que la population, elle se lève contre. La discussion que j'ai eue avec Mme Brière, elle était bien. J'ai rien de mal à dire parce qu'elle a pris le temps de me parler, qui est déjà différent de certaines personnes, des fois en politique, de prendre le temps. Mais l'affaire que j'ai je suis bien fier, par contre, c'est quand je suis allé voir M. Guilbeault. Il était venu à Sherbrooke là, présenter un projet de camion électrique, si je ne me trompe pas. Et j'étais allé le confronter au niveau de c'est quoi ta position sur Baie-du-Nord, vraiment, parce que tu es un environnementaliste.
Il était à Sherbrooke.
Il était à Sherbrooke.
Je ne savais pas.
Ouais.
Raconte-nous.
Ben, oui. Il était venu à Sherbrooke pour Motrec, si je ne me trompe pas. Et j'ai su via un de mes contacts qu'il allait être présent. Donc, je me suis dit, bon, OK, c'est le meilleur moment. C'était une semaine après que j'avais commencé à manifester devant les bureaux de Mme Brière. Et là, à ce moment-là... Quand je suis arrivé, j'avais ma pancarte du GIEC qui montrait un graphique. Puis je lui ai demandé, c'est où sur ce graphique que tu considères que le projet Baie du Nord est écologiquement parlant? T'sais? Donc, il y avait tous les médias qui étaient autour. Puis je suis comme, OK, reste calme, Jacob, reste calme. Parce que c'est quand même un ministre là, au niveau canadien, c'est pas rien. Mais c'est ça, il a été sur la même, la même phrase qu'il disait depuis le début. Là, de, c'est un bon projet pour l'économie, nanana, bon.
Donc, ouais, un projet aussi qui est moins polluant que les gaz que les sables bitumineux, excusez-moi, ouais.
C'est ça.
Mais dans le fond, de qu'est-ce que je comprends, parce qu'au départ, à l'initiative avec cette manifestation-là, Mme Brière, t'avais mentionné, je crois, que tu allais pouvoir t'adresser à M. Guilbeault, que M. Guilbeault allait t'adresser. Mais ça s'est pas arrivé comme ça. C'est vraiment arrivé via ton contact, justement, quand tu es allé le confronter directement, c'est ça?
C'est ça, exactement. Parce que quand Mme Brière me disait ça au niveau de tu vas pouvoir parler avec, je pense que c'était plutôt pour dire un jour, tu vas peut-être avoir la possibilité de... Mais j'ai vraiment... J'étais arrivé à 9h du matin à la place où est-ce que je savais qu'elle arrivait à 10h30, puis je me suis posté là, puis j'étais comme je pars pas ici avant que j'aie eu la chance de lui parler, là.
Parfait.
Comment c'est... Tu voulais-tu... Est-ce que cette période-là de manifestation, puis que tu as eu la chance de rencontrer Mme Brière et M. Guilbeault en très, très peu de temps, comment tu te sens après cette période-là, qui est quand même, veux pas, il y a rarement des personnes qui peuvent se vanter. Hey, moi, j'ai été confronté un ministre au fédéral sur le projet Lady Nord. Là, comment tu te sens par rapport à ça?
Mais si on revient au scepticisme en politique, je vais faire du pouce sur ça. Là. J'ai trouvé ça décevant, le fait que quand il y a eu un ralliement au niveau de la population contre le projet, les personnes klaxonnaient quand ils passaient en voiture à côté de moi et tout. Mais quand il est venu le moment de parler du projet puis vraiment d'essayer de le stopper, ben ça s'est essoufflé avec le temps. Puis au final, ben tu sais, je venais qu'à avoir froid, attendre à la pluie pendant 10 heures par jour, puis les personnes y essayaient. Puis tu sais, c'est ça, je trouve ça dommage parce que dans la société qu'on est actuellement, on va parler des sujets chauds, des sujets de l'heure, des breaking news. Excusez mon anglicisme, mais c'est ça. Et le projet Baie du Nord était the breaking news au moment qu'on en parlait, mais là, il ne l'est plus. Puis je pense que j'ai peut-être eu un impact au niveau de la conscientisation environnementale, mais au niveau du projet en tant que tel, pas nécessairement.
Est-ce que si je peux faire du pouce là-dessus, excuse-moi, Marco, ouais. C'est le... Ce qui est fou, c'est on le sait, que, au niveau environnemental, il y a eu des manifestations. On sait que c'est un projet qui laisse à désirer par rapport à ce dossier-là. Puis là, tu as une autre partie qui dit à Terre-Neuve, il faut un projet de ce type-là parce que l'économie là-bas, c'est terrible, puis il faut qu'ils relancent ça parce que tout le monde part de Terre-Neuve, blablabla. Puis là, mais c'est ça, c'est l'idée que on priorise encore une fois l'économie au détriment de l'enjeu environnemental qui est encore une fois laissé de côté. Puis je veux pas que les gens de Terre-Neuve me lancent des roches, mais c'est ça qui se passe en ce moment, tu sais. Puis je m'excuse pour eux, là.
Ouais, mais c'est totalement faux. Je m'excuse, là, mais que ce soit un projet pétrolier ou que ce soit un projet d'énergie verte, là. Ça, c'est un projet pareil. Là. Ils pourraient faire un projet qui est innovateur au niveau de l'environnement, mais qui rapporte aussi de l'argent à Terre-Neuve. Je veux dire, on est disons le Québec, là, on est le pôle d'innovation. Là. Ben, on pourrait les aider, mais en tout cas, c'est gros. C'est gros.
Il n'y a pas juste aussi avec de l'implication citoyenne de manière spontanée que tu t'es impliqué à Sherbrooke. Tu t'es aussi impliqué dans la dernière campagne à la mairie de Sherbrooke. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça un peu, du rôle que tu avais avec, je crois que c'est Vincent Boutin, au départ, là, qui ensuite a désisté à la mairie?
Oui. En fait, là, quand Vincent il m'a proposé de venir avec lui dans cette aventure de campagne municipale, j'ai tout de suite sauté sur l'opportunité. Là. Premièrement, parce que Vincent, c'est une personne que j'estimais énormément, qui est une personne respectueuse et qui est très ferrée dans ce qu'il fait. Et quand j'ai voulu l'aider, là, j'ai sauté à 100 000 à l'heure. Je faisais au-dessus de 50 heures de bénévolat au niveau de chercher des informations, faire des documents et tout ça. Là. Et quand j'ai su qu'il se désistait, ça, c'était après plusieurs mois de préparation et aussi de terrain, parce qu'on rencontrait énormément les personnes là, sur le terrain. Premièrement, je veux juste dire que c'est la bonne décision qu'il a pris au niveau de sa famille. C'est vraiment ça qu'il a priorisé, puis je pense que c'est tout en son honneur d'avoir réussi à faire un pas de recul. Mais au niveau de mon implication avec lui, là, ça m'a permis de rencontrer du monde dans le domaine là, que je vais toujours chérir l'expérience. Là. C'est vraiment... C'est une campagne électorale, là, le monde, ils vont voir ça comme étant de vendre la salade de quelqu'un, mais je pense que c'est pas juste ça. Je pense aussi que c'est de faire des contacts puis de rencontrer du nouveau monde. Là. Donc, ouais.
Puis la vie de campagne, je vais parler à travers mon chapeau qui est super intéressant. Tu vis vraiment la politique à son apogée. Comment tu peux... Comment t'as trippé par rapport à ce jeu? Déjà, j'ai anglicisé sur trippé, mais...
moi, c'est sûr que...
Même si, évidemment, là, M. Boutin s'est retiré d'avance, mais c'est sûr que vous étiez en préparation de...
On était en pré-campagne, on peut le dire de même. moi, je vois toujours les campagnes municipales, provinciales et fédérales, même aux États-Unis, comme la Coupe Stanley. Littéralement, là, c'est pour moi là, une campagne électorale, c'est une finalité de quelque chose qui, sur 4 ans, il y a eu des débats et tout, puis on va voir s'ils vont se faire réélire. Je t'avouerais bien franchement que quand est venu les derniers mois de campagne, là, vers octobre, j'ai commencé à être extrêmement épuisé, essoufflé de ça, parce que c'est difficile quand même. Là. Il y a autant des personnes qui sont pour le candidat que t'aides, autant qu'il y en a qui sont contre. Puis il faut que tu réussisses à le défendre. Ou pas nécessairement le défendre, mais ou du moins écouter ce qu'ils ont à dire. Puis les personnes ne sont pas toujours respectueuses dans leur façon d'aborder. Donc, je dirais que ça, c'était un gros point. Là. Ouais.
Jacob, c'était super intéressant comme entretien. Je vais finir avec deux questions.
Certains.
En conclusion, premièrement, qu'est-ce que tu dirais à un jeune pour qu'il s'implique qu'il s'implique dans son milieu, que ce soit au niveau politique, soit au municipal, que ce soit dans son école, tout ça. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune pour qu'il s'implique dans sa ville? Puis, après ça, ben, je vais te poser une autre question. Je vais te laisser répondre.
OK, j'ai combien de temps pour ça?
Une minute.
OK, c'est bon. Donc, en fait, là, pour qu'un jeune puisse s'impliquer tant dans l'école, tant dans la ville, tant dans une compagnie, quoi que ce soit, là, parce qu'on va parler plus politique, là, mais je pense que faut y aller d'un coup, en fait. Du jour au lendemain, tu peux vraiment changer ta mentalité. Que tu sois quelqu'un d'introverti, extroverti, que tu aies plein d'amis ou que tu n'en aies pas nécessairement beaucoup, je pense que c'est pas ça. C'est le fait que tu ailles à l'avant et que tu proposes des projets qui sont un peu différents ou que tu essaies du moins d'aider les projets qui sont déjà en cours. Et que, en fait, on le dit, là, c'est pas juste en politique, c'est dans n'importe quoi. Là, d'avoir des contacts, là, c'est très important. Là, parce que ça permet de pouvoir monter dans les rangs, avoir des projets, tout ça. Et je pense que un jeune qui veut s'impliquer davantage doit aussi, tu sais, des formations. Là, suivre des formations, lire beaucoup. Se lancer dans les projets, c'est vraiment ça qui va faire changer le cours de son parcours là, en politique surtout.
Je t'ai fait écouter un extrait avant qu'on rentre en onde. La semaine passée, on a reçu le professeur Benoît Julie, qui est professeur invité ici à la faculté d'éducation de l'université, qui s'intéresse à l'éducation aux politiques. Mm-hmm. Puis, en fin d'entrevue, ce qui est ressorti un peu, c'est que selon lui, l'école enseigne le politique, mais l'enseigne de la mauvaise façon. En fait, enseigne seulement juste la façon démocratique. On met beaucoup d'accent sur l'importance d'aller voter, mais c'est pas juste ça. Mm. Tu le dis, pour toi, un jeune, il faut, pour s'impliquer à Sherbrooke, il peut le prendre les devants puis y aller. Est-ce que l'école, selon toi, elle devrait avoir un rôle à jouer dans l'éducation aux politiques?
En d'autres mots, est-ce qu'il aide déjà, en fait? Ouais. Je pense qu'il aide, oui, à faire autre que juste voter, là, présenter la façon dont c'est fait. Là. On parle juste du conseil municipal de jeunesse, là, comme je suis impliqué, mais il y a aussi d'autres organismes. Là, il y a l'Assemblée générale des Nations unies pour les jeunes, qui est aussi à Sherbrooke. Là, je pense que l'étude en politique appliquée, ils vont aider avec ça. Mais c'est ça. Donc, au niveau de répondre à ta question, là, est-ce que l'État a de l'impact sur l'éducation puis est-ce qu'on devrait la changer? Je pense que c'est déjà super, mais on devrait l'enseigner un peu aux plus jeunes aussi, parce que moi qui fais des études en politique internationale, les professeurs qui vont enseigner, là, c'est vraiment à leur sauce. Mais au niveau de quand on tombe au secondaire, on ne le voit pas nécessairement, l'engouement de « Ah, la politique, il faudrait vous intéresser davantage. » Non, comme tu le dis, c'est vraiment « faut aller voter. » Donc, ouais, c'est ça.
Jacob, merci d'être venu en studio.
Bien, merci à vous.
Merci pour ton travail en politique dans la région cherbourgoise. Et nous, on s'en va en musique avec Claude Pelgag, qui nous joue son classique, les Ferrofluides Fleurs, si je peux le prononcer ainsi. C'est l'attaché de presse sur CFAQ 88.3. Ça part ici. Bienvenue aux Attachés de presse, votre émission hebdomadaire sur CFAQ 88.3. On a eu une très belle entrevue avec Jacob Auger, un individu engagé dans la ville de Sherbrooke et ses alentours. Maintenant, Marco, on va parler. Fallait mentionner la fin de session parlementaire qui a lieu à l'Assemblée nationale, donc qui a lieu en fin de semaine. On a senti, si je peux me permettre, là, on a senti une certaine. C'est comme si on était D'un, les députés s'en vont en vacances, entre guillemets, si je peux me permettre, puisqu'ils ne s'y allons plus ensemble de manière plus quotidienne, je peux me permettre l'expression.
Hebdomadaire,
si on peut se le permettre. C'est pour ça que, selon les dires, puis il y avait une ambiance de vacances, une ambiance de fin d'année scolaire, si je peux me permettre encore une fois l'expression. Et ça met la table pour la prochaine campagne électorale de cet automne. Là. Ça, c'est sûr et certain. Là.
Oui, justement, cette ambiance-là était due surtout au fait que les chefs se préparent à une pré-campagne et à une campagne électorale, mais aussi au fait qu'il y a beaucoup de députés qui ont annoncé leur départ de la vie politique et c'était la dernière fois qu'ils mettaient les pieds au sein de l'Assemblée nationale en tant qu'élus. Là, on préparait de Véronique Yvon, entre autres, du Parti québécois, la moitié du caucus du Parti libéral.
Ça, c'est un fait à noter, effectivement. Je pense à Catherine Dorion.
Catherine Dorion, de Québec solidaire aussi. Claire Samson aussi, du Parti conservateur du Québec, qui ne va pas présenter... qui ne va pas se présenter sous la bannière des conservateurs dans Iberville, qui a souligné, entre autres, les deux années des plantes vertes des députés en arrière-plan.
Ça avait fait les manchettes, effectivement.
Oui, qui a fait réagir aussi.
C'est l'emploi, si je peux me prendre la citation exacte, c'est l'emploi auquel j'ai le moins travaillé, ou bref, c'est quand même spécial. Mais si je peux enchaîner, Gabriel Nadeau-Dubois, il a été très solide dans ses commentaires, dans l'optique où est-ce qu'il l'a mentionné. La CAQ n'aura pas un bel été. On sent déjà une préparation à la campagne électorale, puis on voit Québec solidaire et son équipe placer les pions, je peux me permettre l'expression. Ça a été clair, ça a été dit de la part de Québec solidaire. Mais la citation de Dominique Anglade, qu'on pourrait commenter rapidement, c'est qu'il mentionnait que son parti vise une majorité de 63 sièges aux prochaines élections. Considérant que les sondages mentionnent la CAQ comme gagnant à la prochaine élection à une très forte majorité, c'est une promesse assez solide de la part de Mme Anglade. Bien hâte de voir ce que ça va donner à la suite, pour cet automne. Mais une chose est sûre, c'est que ça met la table pour une élection qui s'annonce être très longue. Là.
Oui, mais aussi qui dit fin d'une session parlementaire, dit arrêt des travaux aussi. Au niveau des arrêts des travaux, il y a un projet de loi qui est le projet de loi 38 sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir qui est arrêté. Je tiens d'abord à le dire, là, c'est un projet qui fait l'unanimité dans les quatre partis, dans les cinq partis en fait, là, mais dans les quatre principaux partis. Autant Québec solidaire, la CAQ, le Parti libéral et le Parti québécois veulent travailler ensemble pour faire adopter ce projet de loi-là à l'unanimité. Justement, je trouve ça un peu déplorable que ce projet de loi-là ne soit pas adopté avant la fin de la session.
Ça touche énormément de personnes, là, notamment sur l'aide médicale à mourir.
Oui, justement, parce que l'élargissement pour l'aide médicale à mourir, c'était fait pour les personnes qui souffraient d'Alzheimer. Donc... C'est pas négligeable. Ce qui est important à dire, c'est que pour l'Alzheimer, il n'y a pas de traitement curatif. Les causes ne sont pas connues. Les changements dans le cerveau s'opèrent 15 à 20 ans avant de développer la maladie. Puis, il y a 91 000 Québécois chaque année qui souffrent d'Alzheimer. Ce qui est important aussi, puis sans oublier, les proches que ça touche. Donc, il y a plusieurs familles, justement, qui ont reproché au gouvernement de pas vouloir adopter ce projet de loi-là avant la fin de l'action parlementaire, justement, parce que ça pourrait abréger les souffrances de plusieurs personnes.
Donc, ça résume les retombées de la fin de session parlementaire qui met la table pour la prochaine élection. Effectivement, la loi sur l'aide médicale à mourir change, amène certaines conséquences, puis c'est dommage qu'on doive devoir attendre au mois de janvier prochain.
Au mois
d'octobre prochain, effectivement. Mais effectivement, dans cette mesure-là, ça joue beaucoup. Mais pour la suite des choses, tout le monde, on va aller en publicité très rapide. On va discuter de l'élection législative française du premier tour qui a eu lieu en fin de semaine dernière. C'est les attachés de presse sur CFA 83. Ça part ici. Bienvenue aux attachés de presse, l'émission indonnable politique sur CFA 83. On accueille notre chroniqueur hebdomadaire également, Eden Bélanger, qui vient nous parler d'élections législatives françaises. Tout d'abord, comment ça va, Eden?
Ça va bien, vous autres?
Ça va excessivement bien. On va parler d'élections françaises, un sujet qu'on a vu passer avec l'élection présidentielle. Maintenant, c'est les élections législatives. Comment ça se passe? Ça va? Qu'est-ce qui se passe?
Justement, il y avait le dimanche 12 avril dernier les élections législatives françaises. L'objectif, un peu comme nos élections parlementaires, comme on va avoir ici en octobre au Québec, l'objectif c'était d'élire les 572 députés français pour les cinq prochaines années. Le vote se fait par un scrutin, mode de scrutin qui est un petit peu différent de chez nous. Là, dans le fond, il y a des circonscriptions, comme ici, il y en a 577. Mais c'est un vote qui se fait à deux tours. Donc, c'est un mode de scrutin uninominal, majoritaire, à deux tours. Comment ça fonctionne? Tout le monde qui le veut peut se présenter au premier tour. On fait un vote. Les candidats qui ont 12,5% des inscrits, donc ceux qui sont inscrits pour voter, non ceux qui ont voté, ceux qui sont inscrits, peuvent passer au deuxième tour. Et s'il n'y a pas de candidats qui l'ont, eh bien, ce sera les deux premiers. Ensuite, un candidat va être élu au deuxième tour si il a 50% plus 1. Et il peut être aussi élu au premier tour dans le cas où il a 50% des suffrages dès le premier tour et qu'il a 25% des inscrits. Ce qui est très, très rare. Il y a eu seulement 5 cas cette année. On va y revenir un peu plus loin.
Si, comme on mentionne, l'élection présidentielle et l'élection législative n'est pas en même temps, est-ce que ça veut dire que notre pouvoir législatif ou notre gouvernement... Est-ce qu'il est vraiment différent de la France? Est-ce que c'est semblable? Qu'est-ce que ça signifie comme distinction sur le plan politique?
Ben, la plus grosse différence, je dirais, c'est qu'ici, on a un régime parlementaire au Canada et au Québec. En France, il y a un régime semi-présidentiel. C'est-à-dire qu'il y a un président qui est élu, on l'a eu l'élection il y a quelques mois, et il y a aussi un parlement qui est élu. Le parlement a beaucoup de pouvoir. Pourquoi? Parce que le gouvernement va émaner indirectement du parlement. Ce que fait le Parlement, dans le fond, c'est qu'il fait le même rôle de contrôle qu'on fait ici au Canada, donc contrôle sur le gouvernement. Mais aussi, la majorité au Parlement va un peu décider de qui est au gouvernement. C'est-à-dire, si un gouvernement, Macron a nommé Elisabeth Borne première ministre il n'y a pas très longtemps, si Elisabeth Borne est défait aux élections, c'est-à-dire qu'une majorité, exemple majorité de gauche, gagne l'élection, elle ne pourra pas se maintenir au gouvernement parce que la majorité parlementaire va la censurer, c'est-à-dire qu'elle va la défaire. Donc, le pouvoir est quand même assez important pour le Parlement aussi.
Justement, tu parlais justement de la gauche, tout ça. Au niveau des partis, c'est quels partis qui sont présents aux élections législatives? Est-ce que c'est les mêmes qu'aux élections présidentielles?
Non, il y a un petit peu de changement. Le jeu politique en France évolue assez rapidement. Donc, d'abord, il y a Ensemble, point d'exclamation, qui est la coalition de la majorité présidentielle. Donc ça, c'est le parti de Macron et ses alliés, là, le Modem, un parti de centre, Horizon, un parti centre-droit, le parti de l'ancien premier ministre Édouard Philippe, et la première ministre et chef de cette coalition, c'est Elisabeth Borne. Il y a aussi l'Union de la gauche, qui est une espèce de nouveaux joueurs, s'appelle la NUPES, pour Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, qui est née à la suite du bon score de Jean-Luc Mélenchon, le candidat de gauche radicale France Insoumise, à la présidentielle. Donc, c'est une alliance électorale, un programme partagé. Ça regroupe le Parti communiste français, la France Insoumise, le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Donc, c'est vraiment une coalition assez arc-en-ciel. C'est assez incroyable, hein? Parce que d'habitude, l'union à gauche en France, ça s'est fait quelques fois. Ça s'est fait, exemple, en 1936, on appelait ça le Front Populaire. Ça s'est fait aussi sous Mitterrand, mais c'est tout le temps la gauche modérée qui allie autour d'elle la gauche radicale. Là, c'est le contraire, et c'est assez du jamais vu en Occident même.
Comment on peut expliquer cette situation-là? C'est, j'imagine, la part de Jean-Luc Mélenchon lors des élections présidentielles.
C'est
j'imagine.
Le score incroyable de Mélenchon qui a eu 22%, tandis que les restes des candidats de gauche ont eu même pas 5%. Donc, il a vraiment dominé. Et pour faire un peu de comparaison avec le jeu québécois, là, de voir Mélenchon un peu agréger la gauche autour de lui, c'est un peu comme si, dans les années 70, Pierre Bourgault avait agrégé les souverainistes autour de lui et non René Lévesque. Donc c'est un truc qui est assez unique en son genre, là, vraiment. Ensuite, il y a le Rassemblement national. Donc ça, c'est l'extrême droite classique de Marine Le Pen, qui est arrivée deuxième à présidentielle. On a la droite, donc les Républicains et quelques autres partis de droite qui ont été écrasés à la présidentielle. Et on a Reconquête, le parti que moi j'aime dire d'extrême droite. C'est le parti de Éric Zemmour, donc le fameux polémiste.
Puis, au niveau des résultats, qu'est-ce qui est arrivé, là? De ce que je comprends, il y a eu un scandale sur la présentation des résultats. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu là-dessus?
Ben ouais, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à la base même, le ministère de l'Intérieur n'avait même pas voulu reconnaître la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale en tant que nuance politique. Dans le fond, les nuances, c'est l'étiquette qu'on va donner aux candidats pour compléter les voix et savoir qui arrive en tête. Au début, on voulait séparer ça en les différents partis de gauche, donc Parti socialiste, Parti communiste, etc. La NUPES a été devant la Cour, le Conseil d'État. Le Conseil d'État lui a donné raison. Donc, on a été obligé de nommer, de créer la nuance NUPES. Mais le ministère de l'Intérieur n'a peut-être pas donné la nuance NUPES à tous les candidats qu'on voudrait. Ça fait que, selon le ministère de l'Intérieur, c'est Ensemble qui est arrivé en tête de seulement 20 000 voix sur la NUPES. Mais selon Le Monde, qui a fait une autre classification, c'est la NUPES qui a gagné. Donc là, ça change pas grand-chose au bout du compte. C'est plutôt symbolique. Mais ça nous dit vraiment à quel point l'élection était serrée. L'élection était au coude à coude. Et pour la gauche, en fait, c'est une extrême victoire, là.
Puis au niveau des résultats, qu'est-ce que ça a donné en termes de suffrage pourcentage?
Donc là, je vais prendre ceux du ministère de l'Intérieur. Donc, Ensemble aurait eu 25,75% des voix. Ce qui est un résultat médiocre pour une majorité présidentielle. C'est la première fois de l'histoire de la Ve République que la majorité présidentielle a moins que le président qui a gagné avait eu au premier tour de l'élection présidentielle. Donc, c'est absolument médiocre.
Comment on peut expliquer tout ça? C'est l'idée que... la vision des personnes Macron, j'imagine?
Que les gens qui ont voté pour Macron l'ont beaucoup voté par dépit. Hein. Il y avait peur de Marine Le Pen. Et aussi, il n'y avait pas de Jean-Luc Mélenchon à droite. Donc, les gens sont pas retournés de leur côté. Ouais, à gauche. Donc, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu un résultat peut-être un peu plus gonflé. Mais il y a aussi la dynamique de la NUPES là, qui a créé une dynamique totale en terminant avec 25,66% des voix. C'est un résultat qui ressemble un peu à ce que la gauche avait eu en 2017. Si on allie toutes les forces de gauche ensemble, donc j'inclus les mini-partis de gauche qui restaient, la gauche avait environ 32,5% des voix. Donc, c'est quand même un très bon résultat pour la gauche qui était décimée en France. Le RN a eu 18,68, ce qui est le meilleur score jamais obtenu par l'extrême droite. La droite a eu 13,62, ce qui est une dégringolade totale. Et le Parti Reconquête d'Éric Zemmour a eu à peine 4% et le parti est pratiquement mort là, aujourd'hui. En siège, que ça donne, donc là c'est des projections, on ne sait pas encore parce qu'il y a un deuxième tour, environ 255 à 295 pour l'ensemble, 150 à 190 pour la NUPES, 50 à 80 pour la droite, 20 à 45 pour le RN, 15 à 25 pour les autres partis de gauche, 10 à 17 pour les autres, et Reconquête a zéro siège, ça c'est assuré. Donc le parti est éliminé des élections.
Alors qu'il y avait beaucoup de hype sur...
Il y avait beaucoup d'espoir à l'extrême droite pour Éric Zemmour, finalement c'est totalement mort.
Autant présidentiel qu'au législatif.
Oui, il s'est vraiment planté, si on peut le dire. Donc là, la majorité des seconds tours vont être entre Ensemble et la NUPES. Il va en avoir aussi entre Ensemble et le Rassemblement national, et entre le Rassemblement national et la NUPES. Et là, ça nous amène des dynamiques assez intéressantes. La fameuse consigne de vote. Qu'est-ce qui arrive quand ton candidat est pour deuxième tour? Qu'est-ce que font les Macron lorsque Ensemble est pour deuxième tour et qu'on a la gauche et l'extrême droite? Eh bien, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Ils sont un peu mêlés. Au début, ils étaient comme aucun extrême. Ensuite, ils se sont dit « Ah, non, pas une voix pour le RN. » Là, ils ont été au cas par cas. C'est n'importe quoi. Ils votent pour Fabien Roussel, mais ils votent pas pour les candidats insoumis. Fabien Roussel, c'est le chef des communistes. On ne sait pas trop ce qui se passe. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir comment le Front républicain est un peu malléable. Hein. La droite utilise quand ça fait son avantage, mais quand ça fait pas son avantage, elle est moins apte à l'utiliser. Donc, c'est assez drôle, tout ça.
Justement, tu parles du Front républicain. Qu'en est-il? C'est quoi son avenir?
Ben, il existe pas, honnêtement. Même la NUPES a dit pas une voix pour Marine Le Pen, mais sans appeler à voter pour Ensemble. Même LR a dit aucune voix pour les extrêmes. Donc, on classifie l'extrême gauche et l'extrême droite au même niveau, ce qui est assez... assez faux, de mon avis. Et le RN a dit on vote pour personne d'autre sauf le RN, ce qui démontre encore une fois qu'ils sont isolés quand même dans le jeu politique français.
Pour ce qui est du second tour, c'est quoi les scénarios possibles?
Il y en a trois, quatre. Le premier, c'est que la majorité aurait une majorité absolue, ce qui, selon moi, n'arrivera pas. Okay? Ce qui est arrivé en 2007, ce qui n'arrivera pas, Macron n'aura pas réussi son pari. Il pourrait avoir une majorité relative de la majorité présidentielle, ce qui voudrait dire qu'elle aurait environ 250-160 sièges sans nécessairement avoir la majorité absolue. Ce qui veut dire qu'on devrait négocier au cas par cas et ça serait de quoi de très instable. Et l'autre scénario possible, c'est la cohabitation. Donc, ça serait que la NUPES remporte la majorité des sièges. Et donc, Jean-Luc Mélenchon deviendrait premier ministre, un peu comme il dit, qui veut le faire. Si ce qui arriverait, c'est qu'il remporterait d'ailleurs. Mais ça n'arrivera pas, selon moi. Ils vont terminer, malheureusement pour eux, deuxième.
En conclusion, Eden, par rapport aux élections.
En conclusion, Ensemble, légèrement favorite. Mais de mon avis, rien n'est encore joué. Pourquoi? Un sondage Ipsos paru dimanche jugeait que 51% des Français préféreraient une majorité Ensemble et 48% une majorité NUPES. Donc on voit vraiment que c'est relativement serré.
Merci Eden de ton tour d'horizon sur les élections présidentielles législatives françaises, pardonnez-moi. C'était les attachés de presse, émission hebdomadaire sur CFA 88.3 à tous les mardis de midi à 13h. Merci d'avoir été des nôtres. On sera de retour la semaine prochaine pour une autre émission. Ça part ici.